Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Hello. Il est 9h41 sur France Inter et c'est reparti pour 20 minutes d'actu média jusqu'à 10h.
Vous êtes en direct, allez-y.
Ce fut quasi instantané hier soir. À peine un attentat venait-il d'être commis à Strasbourg que se sont multipliés sur les réseaux sociaux des messages et des vidéos. Voilà qui arrange trop bien Macron. Voilà qui va mettre fin aux gilets jaunes. Voilà qui va empêcher tout le monde de sortir dans la rue. C'est pas un vrai attentat, c'est un truc fabriqué par l'État. Sachez que ce type de raisonnement, qui ne nie pas les faits, mais qui les interprète à l'aune d'un complot ou d'une conspiration, sont devenus le passage obligé en période d'attentats. Sont-ils apparus encore plus rapidement qu'auparavant, de manière plus massive? On s'interrogera ce matin dans l'instant M. Les groupes de discussion des Gilets jaunes se sont-ils montrés plus peureux que d'autres à ces délires paranoïaques? Beaucoup, beaucoup de questions ce matin.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Je vous présente mes invités. Guillaume Dodin, bonjour.
Bonjour.
En charge de l'AFP Factuel, un service qui fait tout juste ses un an, un service de vérification de l'information, du fact-checking à échelle d'une agence de presse mondialement implantée. Hein, c'est-à-dire que vous faites régulièrement appel à tous vos bureaux de l'étranger, voilà. Mexico, l'Afrique. C'est hyper intéressant d'ailleurs, hein, oui. Parce que ça permet de pointer aussi la mondialisation des rumeurs.
Exactement, on travaille en 4 langues, dans 13 pays, donc ouais. On a vraiment des journalistes partout qui peuvent nous aider à vérifier des informations venues d'ailleurs et qui peuvent aussi traduire dans d'autres langues ce qu'on a vérifié, parce que les fausses informations sautent les frontières, sautent les barrières linguistiques, et donc ça fournit de l'aide là-dedans.
Voilà, et je précise que y a un blog AFP Factuel, qu'il est entièrement gratuit, que tout le monde peut y avoir accès en cette période où c'est important de pouvoir vérifier l'information, que ça n'est pas réservé aux médias abonnés à l'AFP. À vos côtés, Tristan Maldès-France, que nous connaissons bien dans l'instant M. Bonjour Tristan.
Bonjour tout le monde.
Voilà, je rappelle que vous êtes maître de conférences associé à Paris Diderot, que vous êtes également enseignant au CELSA. Petit mot à l'adresse de tous nos auditeurs, il y a beaucoup de messages complotistes qui se terminent par « renseignez-vous vous-même sur Internet ». Si on n'a qu'une chose à vous dire ce matin, c'est surtout pas, on vient de vous parler du blog AFP Factuel, sachez qu'il y a une cellule d'information de la préfecture, je vous donne le numéro 0811 00 06 67, je répète 0811 00 06 67, ça c'est la cellule d'information de la préfecture. Et puis sachez aussi qu'il y a le site internet des DNA, Dernières Nouvelles d'Alsace. Ce sera pour vous, habitants de la région, une mine d'informations croisée et vérifiée. Le journal n'a pas pu sortir en kiosque ce matin parce que les ouvriers du livre, en fait, n'ont pas pu accéder cette nuit à l'imprimerie. Tout le quartier était bloqué par la police suite à l'attentat. Mais le site des DNA est évidemment en marche et totalement au taquet. Alors, un petit mot d'abord, Guillaume Dodin, sur BFM TV hier soir. Vous avez reçu beaucoup de questions à l'AFP Factuel. Les tweets de la préfecture, région Grand Est et Bas-Rhin, qui suivaient l'attentat, indiquaient une heure antérieure à celle de l'attentat. De quoi alimenter tout un tas de psychoses vertigineuses. Comment ça se fait que la préfecture était au courant? Elle avait anticipé, elle avait prévu les faits. Qu'est-ce qui s'est passé?
Pas du tout, pas d'anticipation évidemment. C'est juste un mécanisme informatique sur Twitter. C'est que quand son compte Twitter n'est pas réglé, quand on n'a pas fait l'effort de le régler, il est réglé à l'heure de Californie. C'est là où est basé Twitter. En Californie, il y a 9 heures de moins. Et donc, ces tweets, au lieu d'annoncer 20h17, je crois que c'est ça de mémoire, ils annonçaient 11h17, 9 heures avant. Et ils ont donné l'impression à beaucoup de gens que, en tout cas à certaines personnes sur les réseaux sociaux, que ces tweets avaient déjà été programmés avant, mais finalement publiés après, et que évidemment, tout ceci était une machination.
Voilà. Et ça, on a vu beaucoup circuler cette nuit. Hein. Ça a totalement explosé. Évidemment comme mise en doute. Et vous avez été interpellé directement?
Voilà, sur Twitter et sur Facebook, on a des pages, des comptes, et donc les utilisateurs peuvent nous remonter des informations qui leur paraissent suspectes, et charge à nous d'essayer de les vérifier au plus vite, de la meilleure des manières. Donc parfois ça prend du temps, parfois on n'y arrive pas, et dans ce cas-là, par contre, on avait une réponse précise et rapide. rapide, donc on l'a diffusée vers minuit ce matin, hier soir, pour essayer de prévenir les lecteurs.
Pour endiguer la chose. Alors, je vous l'ai dit, beaucoup de messages mettant en cause l'origine de ces attentats. Je vous rediffuse ce que Claude Escolovitch vous a fait entendre ce matin, un extrait d'un live Facebook de Flyrider, alias Maxime Nicole, ou l'inverse.
Si c'était un attentat, dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il attend pas qu'il y ait trois personnes dans une rue le soir à 20h. Il va en plein milieu des Champs-Élysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser. Ça, c'est un vrai attentat. Le reste, c'est des effets pour faire peur.
Voilà, je vous cite aussi beaucoup de choses qu'on a vu fleurir sur les réseaux sociaux. Bizarre, hier, Macron n'a pas convaincu les merdias. Nous disent les gilets jaunes, c'est fini. Et ce soir, un attentat à Strasbourg, point d'interrogation. Toujours cette mise en doute et mise en question. On ne répond pas, mais on s'interroge. Autre citation, plein de gens disent que l'attentat à Strasbourg a un timing trop parfait. Étrange cet attentat le lendemain de l'élocution de Macron. Coup monté pour faire peur aux gens pour la suite des manifestations. Et puis c'est suivi de toutes sortes d'émoticônes. Dernière citation, état d'urgence déclaré par Macron ce soir, n'est-ce pas un peu gros? Je ne sais pas, mais pensez aux victimes. Tristan Mendès France.
Oui, une petite réaction. Là, on écoutait à l'instant le live de Maxime Nicole, qui est donc un pseudo porte-parole d'une partie des Gilets jaunes. Il s'exprimait, il a un groupe sur Facebook et il a quand même une responsabilité dans la mesure où il y a quasiment 140 000 personne, membre de son groupe. Donc c'est pas anodin, c'est pas juste une parole.
D'autant plus de responsabilité qu'il est très médiatisé, il est beaucoup passé à la télévision.
Ben oui, c'est un peu un meneur d'influence dans cette nébuleuse des Gilets jaunes. Alors c'était un peu, c'est un travail à la fois de personnes qui ont pas mal de visibilité dans cet espace, dans cet écosystème particulier sur les réseaux sociaux, notamment malheureusement des Gilets jaunes, mais pas uniquement. Mais c'est aussi le fait de petites mains, de centaines, de milliers de commentaires. Je me suis amusé, c'est un peu dépitant tout ça. Bon, en tout cas, j'ai commencé à regarder un peu ce flot de commentaires qui ont commencé à apparaître, pas uniquement sur les groupes des Gilets jaunes, mais particulièrement. Et c'était assez flagrant de constater que le mainstream dans ces espaces-là était plutôt complotiste. Il y avait des voix discordantes, il faut le dire. Il y a des personnes qui, dans ces groupes-là, s'expriment de façon virulente en disant « Attention, c'est pas forcément un complot, délirez pas, il faut d'abord penser aux victimes, essayer de
Guillaume
recadrer un tout petit peu. »
Il y a même eu des appels à la modération, il y a même eu des commentaires fermés délibérément pour ne pas manquer.
Qui rassemblent beaucoup de gilets jaunes, qui ont fermé leurs commentaires. Mais là, moi, où j'ai repéré beaucoup de messages criant à la manipulation, c'était sur les événements pour samedi prochain, c'est-à-dire les événements appelant à manifester samedi prochain. Là, il y avait beaucoup de messages. Après, ce qu'on fait, nous, c'est jamais un sondage professionnel, exhaustif, etc. C'est juste un aperçu, on regarde, et puis en fait, on fait défiler les messages qui apparaissent. Hier soir, ce matin encore, avant de venir, je voyais beaucoup de messages qui disaient « c'est une manipulation », etc. En même temps, il y avait aussi des messages, comme l'a dit Tristan, qui étaient arrêtez vos bêtises, c'est n'importe quoi. Il y avait de la discussion sur ces groupes, mais il y avait quand même beaucoup de messages criant la manipulation.
Tristan Mendès France.
Oui, le seul problème, c'est que évidemment ces petites voix là qui sont plutôt raisonnables dans ces espaces là ont moins de traction, ont moins de visibilité. Et j'ai envie peut-être de pointer aussi dans ces espaces là, sur les réseaux sociaux notamment, le rôle des algorithmes. Les algorithmes font remonter un peu ce qui est choquant, ce qui est clivant, ce qui est inquiétant. Et donc très rapidement, quand on se balade dans ces espaces que je fais moi-même, je vois bien que les algorithmes font remonter ce qui est le plus populaire dans ces bulles informationnelles. Et malheureusement, ce qui ressort de ça est parfaitement complotiste.
Et pourtant, Guillaume Dodin, Facebook et Google se sont dotés normalement d'outils justement pour faire descendre les fausses informations.
Alors nous, par exemple, l'AFP, on a signé un contrat avec Facebook. Facebook nous signale des informations que les utilisateurs considèrent peut-être comme fausses. Et nous, on peut les vérifier. Et si on les vérifie, on dit que ces informations sont fausses, Facebook qu'on diminue la portée sur son fil d'information. Ce qui se passe, c'est que c'est les informations qui circulent sur la timeline, la première page que vous voyez sur Facebook, qui sont diminuées, et peut-être un peu moins celles qui circulent sur les groupes. Celles-là, elles sont plus dures à repérer, plus dures à détecter. Elles nous sont moins souvent remontées par Facebook. Et donc ça, on travaille là-dessus, mais c'est plus compliqué à...
Tristan Mendès France.
Oui, d'autant que Facebook, en début d'année, a modifié ses algorithmes pour dégrader les contenus qui étaient produits par ce qu'on appelle les pages sur Facebook, les choses un peu plus institutionnelles, et a fait remonter ce qui est produit par...
Typiquement sur les pages produites par les médias.
Et les groupes, oui, ouais, notamment. Voilà. Et donc, il y a au contraire fait monter les contenus produits par les individus, les vrais gens, entre guillemets, et ce qui est produit par les groupes, ce qui est aussi un amas de vrais gens.
Un amas de vrais gens. Alors après Charlie Hebdo et l'hypercachère, de très nombreuses théories illustrées par exemple par un long papier publié sur le réseau Voltaire. Ça n'est pas un attentat djihadiste, ce à quoi on vient d'assister à Paris, mais la main des services de renseignement français, du Mossad, de la CIA. Je vous fais écouter un extrait d'un reportage du 20h de France 2 en janvier 2015. Discussion entre un entraîneur d'un club de foot et les ados qui lui font face.
Je pense que c'est pas arrivé comme ça. C'est obligé que ce soit un complot, parce que pourquoi deux musulmans iraient attaquer Charlie Hebdo en claquant des doigts? Alors que l'histoire, elle date d'il y a 9 ou 6 ou 9 ans. Moi, je pense que c'est un complot de l'État français.
Voilà, donc c'est devenu un passage obligé. Guillaume Dodin de l'AFP, Tristan Mendès France, c'est devenu un passage obligé après chaque attentat en France. Tristan?
Oui, alors effectivement, je ne sais pas s'il y en a plus ou s'ils sont simplement plus visibles, ces discours-là. Là, on a une particularité avec cet événement aujourd'hui, c'est qu'on a donc un drame, des théories conspirationnistes traditionnelles et une conjonction, c'est l'irruption des Gilets jaunes.
Oui.
L'écosystème informationnel des Gilets jaunes est rentré vraiment en fusion avec ces théories conspirationnistes. Donc c'est peut-être ça qui est novateur et qui a créé une chambre d'écho et qui a donné une visibilité supplémentaire à tous ces délires. Petite précision,
ouais,
encore une fois, on va charger beaucoup les Gilets jaunes parce que c'est très présent, mais il faut voir que est très vite venu s'agréger dès hier soir ce qu'on appelle la fachosphère traditionnelle en ligne, la complosphère de tout ordre. Il n'y a pas que les Gilets jaunes. Mais malheureusement, ils ont une grande visibilité, une grande force, et c'est ce contact entre les deux qui
fait... Ce télescopage entre les deux. Guillaume Dodin, je rappelle que avant de piloter la cellule AFP Factuel, vous avez été journaliste en charge des mouvements d'extrême droite pour l'AFP.
Absolument. C'est un moment où on retrouve beaucoup d'actualités, beaucoup de débats sur Facebook, et du coup beaucoup d'attentes aussi des Gilets jaunes qui veulent savoir ce qui va se passer pour la suite, qui pour certains ont été déçus par les annonces d'Emmanuel Macron, et qui voyaient vraiment dans le...
Et puis il y a cet acte 5
Il y a cet acte 5 exactement samedi, ils attendent ça pour certains avec impatience, et du coup ils ont l'impression que tout va être bon pour les empêcher de manifester, ceux qui postent ce genre de messages, et c'est là où il y a un peu un dégradé. Il y a des personnes qui pensent qu'il y a une manipulation. Il y a aussi des personnes qui pensent tout simplement que le gouvernement va profiter de cet attentat pour interdire les manifestations samedi, pour empêcher les Gilets jaunes d'exprimer leur colère. Et donc, il y a des
gens... Sans y voir nécessairement la main des services de renseignement qui auraient fomenté quelque chose pour faire diversion. C'est extrêmement complexe ce à quoi on assiste en ce moment, parce que des vrais complots, ça existe, parce que des soupçons de manipulation, ça existe. Cette semaine, justement, une enquête du New York Times, c'est-à-dire des Américains, et de Bloomberg, montrait qu'on pouvait soupçonner les Russes justement de jouer sur les comptes Twitter des Gilets jaunes pour mettre de l'huile sur le feu sur ce qui se passe dans la rue en France en ce moment. Tristan Mendès France.
Oui, il semble évident que de toute façon les agents étrangers, toute personne qui va créer une sorte de travail d'influence en France va profiter, c'est une question d'opportunité. C'est évident que les Russes vont voir ça avec un intérêt en se disant comment est-ce qu'on peut l'exploiter. Il faut juste faire attention sur l'ampleur, c'est un phénomène qui préexiste probablement à ces jeux d'influence extérieurs. Mais il est inévitable que des agents extérieurs vont profiter de cet événement.
Allez expliquer, Tristan Mendès France, allez expliquer à quelqu'un qui est sur les ronds-points en ce moment qu'il est peut-être manipulé par les Russes, et sans doute manipulé par les Russes, mais qu'en aucun cas ce qui vient de se passer à Strasbourg n'est manipulé par les services de renseignement français. Vous vous rendez compte que là, on arrive quand même à un croisement extraordinairement complexe, Guillaume Dodin.
Mais c'est pour ça qu'on est prudent sur cette possible manipulation, parce qu'il faut regarder ce qui se passe. Il y a un mouvement social en France énorme, d'ampleur. Il y a beaucoup de gens mobilisés dans la rue. Ça existait avant cette histoire de compte. Il y a peut-être des comptes qui l'amplifient, qui donnent de l'écho, mais ce mouvement n'a pas besoin d'une telle caisse d'écho pour exister, pour avoir une voix et pour avoir des gens dans la rue. C'est une évidence.
Tristan Mendès France, enquête publiée par l'IFOP en janvier 2018, 79% des Français croient au moins en une thèse conspirationniste. Et en période d'attentat, on sait bien que ce ne sont pas les profils habituels, ce ne sont pas les sphères habituelles qui sont poreuses à toutes ces théories. C'est monsieur et madame tout le monde, c'est énormément de gens. Il y a sans doute là un mécanisme de défense psychologique face à la peur.
C'est un fait de société, et c'est aussi le fait que malheureusement les médias Oui. Les politiques, évidemment, ont perdu la place qu'elles avaient dans l'esprit des Français. Aujourd'hui, le crédit, tous les sondages le montrent. Mmh. Le crédit qu'ont malheureusement les médias et les politiques est terriblement bas. Mmh. Donc, c'est une sorte de pampa ouverte à tous les discours où il n'y a plus de véritable contrôle. Et petit point là-dessus aussi, la façon dont les gens consomment l'information. Vous parliez de quelqu'un qui serait sur les ronds-points, un gilet jaune. Comment est-ce qu'il s'informe? Il va s'informer vraisemblablement via Facebook et il va être inondé d'informations.
C'est le premier réseau social en France. On va le rappeler.
Et donc, il va accéder à l'information que lui va voir, va lire, va être celle qui est partagée par ses proches ou ce qui est produit par les groupes qu'il suit déjà. Et malheureusement, le travail qui est fait peut-être par FP Factuel ne pénétrera même pas cette bulle. Il ne saura même pas qu'il y a eu un contre-argument fait par des gens qui font un travail absolument essentiel aujourd'hui. C'est cet écosystème de l'information qui, je pense, favorise malheureusement ces délires.
Mais c'est là où on fait notre mieux, en fait, pour faire preuve de pédagogie, pour essayer de répandre, évidemment, nos vérifications le plus largement possible, mais aussi faire preuve de pédagogie. On ne prétend pas tout résoudre, on ne prétend surtout pas répondre à des opinions, on n'est pas là pour travailler sur des opinions, on travaille sur des faits, on explique s'ils sont vrais ou pas. Comment on le fait? On prend des preuves, on va dire irréfutables, et on les offre au public. On ne dit pas seulement ce que vous avez lu est faux. On explique pourquoi. On permet aux gens de refaire la vérification.
On va s'éloigner un instant du sujet de ce matin, c'est-à-dire ces théories conspirationnistes qui ont fleuri cette nuit après l'attentat, pour revenir à ce que vous avez fait depuis un mois sur le mouvement des Gilets jaunes. Non, Gérard Lanvin n'est pas l'auteur d'une lettre ouverte anti-Macron très virale sur Facebook. C'est ce qu'on a vu, mais c'est-à-dire que vous déminez des petites contre-vérité autant que des grosses, c'est-à-dire que vous avez aussi fait tout un travail sur les photographies publiées de choses en feu au pied de l'Arc de Triomphe pour montrer que ce sont des photomontages qu'on met côte à côte. Absolument. D'anciennes photos ou de photos qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, Guillaume Dodin.
On a aussi expliqué récemment pourquoi des photos qui circulaient de voitures qui avaient été mises à feu sans plaque d'immatriculation, ce n'était pas un complot. En fait, les plaques avaient été retirées pendant la manifestation par des manifestants, ce qui fait que ces voitures étaient au final sans plaque d'immatriculation. C'était pas des services de l'État qui avaient mis ces voitures sur place pour essayer d'attiser la colère et pour donner l'impression que voilà qu'il y avait encore plus de grabuge qu'il n'y en avait. Donc on fait ce travail patient chaque jour. On essaye de montrer point par point, fait par fait, preuve par preuve.
Énorme travail en Afrique aussi sur les gilets jaunes.
Oui, parce que il y a beaucoup de fausses informations qui ont circulé en Afrique. Par exemple, une image d'un gilet jaune qui aurait écrit sur son dos.
Macron n'a qu'à bien s'inspirer
de Macky Sall. Voilà, le président sénégalais. Il faut faire attention à tout ça. Il y a eu aussi des vraies informations. Par exemple, il y a eu une soirée gilet jaune. Je crois que c'était au Sénégal.
À Dakar.
À Dakar, voilà, des gens qui sont habillés de gilet jaune. C'est vrai, donc on vérifie le vrai, le faux. Et on essaye d'apporter un peu de clarté et de vérification dans tout ce qui circule et sur lequel les gens s'interrogent beaucoup.
Un dernier mot, Tristan, sur la porosité des réseaux face à des théories qui peuvent être fomentées en dehors de nos frontières, dans des périodes comme aujourd'hui.
Si je pouvais, je dirais plutôt que il y a le symptôme de tout ça est quelque part quelque chose qui m'inquiète, qui est peut-être le début de quelque chose. Là, on voit ces théories qui commencent un peu à diffuser. J'ai peur que c'est que le début. Je crois que les choses ne s'arrêtent pas. Entre hier soir et ce matin, j'ai vu vraiment que les choses prennent feu. Et je crois que ce qui m'inquiète un peu là-dedans, c'est une sorte de libération de la parole, une normalisation de ce délire un peu complotiste. Donc, à suivre.
À suivre. Merci beaucoup à tous les deux, Guillaume Dodin, l'AFP Factuel, et Tristan Mendès France. C'est la fin de l'émission. Ali Rebéi, bonjour.
Bonjour, Sonia De Villers.
On va parler narcissisme dans Grand Bien vous fasse.
Hyper narcissisme. Ah, c'est pas exactement la même chose. Et on va se demander si nous vivons sous une dictature de l'ego.
C'est-à-dire que vous allez vous aussi parler des réseaux sociaux, mais d'une autre manière.
Exactement. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.